Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Et bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débat, de point de vue. C'est votre 18-20. Dans une poignée de secondes, le journal va-t-on vers de nouvelles restrictions sanitaires? Nouveau conseil de défense lundi. Le gouvernement s'inquiète face au variant Delta qui circule chaque jour un peu plus. Dans 20 minutes, on va parler discrimination. C'était un engagement du président Macron. Un rapport vient d'être rendu à la ministre Elisabeth Moreno qui viendra nous dévoiler son contenu. 18h30, le débat des grandes voix. Xavier Bertrand peut-il plier le match? La reprise épidémique et le bac a-t-il encore de la valeur? Et puis, entre 19h et 20h, c'est votre débat du Club d'idées d'Europe Soir. C'est mercredi, c'est le jour des sorties cinéma. Et alors qu'a débuté hier le Festival de Cannes, comment va l'industrie du cinéma? Faut-il s'attendre à un rebond ou à un plongeon à terme après cette pandémie? On va en parler avec nos invités, mais également, bien sûr, avec vous. Est-ce que vous êtes retourné au cinéma? Avez-vous pris d'autres habitudes? 39-21, je vous attends avec plaisir. Mais avant cela, toute l'info avec le journal présenté par Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Bon début de soirée sur Europe 1, il est 18h.
Les signaux d'alerte se multiplient et le risque d'une quatrième vague rapide est là.
Le variant Delta au cœur de toutes les inquiétudes. Il représente désormais 40% des nouvelles contaminations.
Situation préoccupante, notamment en Île-de-France, en région PACA, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine. Et cette question, des décisions seront-elles annoncées en début de semaine prochaine?
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, épinglé par Mediapart. Il aurait omis de déclarer plus de 300 000 euros de revenus.
Le président haïtien assassiné chez lui en pleine nuit par un commando armé. Le pays est totalement déstabilisé.
L'éditeur de jeux vidéo Konami annule son contrat avec Antoine Griezmann après la diffusion d'une vidéo polémique qualifiée de raciste.
Et puis le Tour de France avec cette 11e étape au Mont Ventoux remportée par le Belge Van Aert. Le Slovène Pogacar conserve le maillot jaune.
Le chaudron de Wembley prêt à s'embraser pour les Anglais. Deuxième demi-finale de l'Euro ce soir, mais gare aux Danois, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient créer la surprise. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,31% ce soir à 6527 points.
La tendance météo, Marlène Duré.
Un peu décevant pour un mois de juillet, on a toujours de l'air frais et humide qui favorise les nuages et les averses. Le soleil aura du mal à s'imposer. A priori, c'est vers les frontières de l'Est qu'il fera le plus moche. Du beau temps, on en trouvera près de la Grande Bleue. Voilà, je reviendrai sur ce bulletin à la fin de ce journal.
Tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et l'heure est donc à l'inquiétude à l'approche des grands départs en vacances. Le virus Delta étend son emprise et le gouvernement, bien évidemment, suit ça de très près.
Voilà, conseil de défense ce matin. Il y aura un autre conseil lundi prochain à la mi-journée. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ne cachait pas sa préoccupation.
La situation en Île-de-France se détériore rapidement, le taux d'incidence régionale est supérieur à 30 et tous les départements présentent une hausse de l'incidence, en particulier à Paris, plus 91% sur une semaine, dans les Yvelines, plus 45% et dans les Hauts-de-Seine, plus 40%. Les signaux d'alerte se multiplient et le risque d'une quatrième vague rapide est là. Ce variant est redoutable, il est extrêmement rapide et partout où il sévit, il peut gâcher l'été. Dans ce contexte, le vaccin est une chance à saisir. La France n'est pas un pays anti-vaccin, loin de là. Plus de la moitié de la population est vaccinée. Mais si en France il n'y a pas beaucoup d'anti, il y a encore trop de j'attends. Mais le variant n'attendra pas et il nous faut dès aujourd'hui lui couper l'herbe sous le pied. La vaccination est notre carte maîtresse pour sortir du tunnel, il faut nous en emparer.
Le porte-parole du gouvernement ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Bonsoir Anne Le Gall.
Bonsoir.
On entend Gabriel Attal nous dire que la situation est préoccupante. Sur quel chiffre s'appuie-t-il exactement?
Alors d'abord sur le taux de présence du variant Delta qui est plus contagieux et qui accélère la diffusion de l'épidémie. Ce variant Delta représente désormais 40% des contaminations en France. On compte plus de 3500 nouveaux cas quotidiens. C'est le chiffre le plus élevé depuis un mois. L'incidence est en train de remonter dans 11 régions, particulièrement en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et PACA. Et dans le détail, la dynamique épidémique est particulièrement forte chez les 20-30 ans.
Alors Anne, est-ce que ça veut dire que le gouvernement pourrait être amené à prendre de nouvelles mesures?
Eh bien oui, même si rien n'a été annoncé ce matin à l'issue du Conseil de défense sanitaire, un autre conseil doit donc se tenir lundi pour examiner la question de la vaccination obligatoire pour certaines professions. Olivier Véran reçoit d'ailleurs en ce moment les représentants des soignants. Il pourrait y avoir aussi de nouvelles restrictions aux frontières, une extension du recours au pass sanitaire dans les lieux de loisirs. Et en attendant donc, on l'a entendu, l'heure est à la mobilisation générale pour la vaccination. C'est notre carte maîtresse pour sortir du tunnel, a déclaré Gabriel Attal. À ce stade, 37% de la population française seulement est entièrement vaccinée. Or, c'est bien l'injection de deux doses qui permet d'acquérir une bonne protection face au variant Delta.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Et ce soir, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, met en garde contre une levée trop importante des restrictions sanitaires.
Les ennuis s'enchaînent pour Éric Dupond-Moretti.
Le garde des Sceaux qui est convoqué le 16 juillet, vous le savez, en vue de sa mise en examen pour soupçon de prise illégale d'intérêt et qui est également rattrapé par la patrouille fiscale.
Justin Morin, le ministre de la Justice, aurait oublié de déclarer 300 000 euros de revenus. C'est en tout cas ce qu'affirme Mediapart.
Oui, 300 000 euros de droits d'auteur liés à son livre adapté au théâtre intitulé « À la barre », des revenus qui datent de l'année 2019 et sur lesquels Éric Dupond-Moretti aurait dû payer 180 000 euros. Alors depuis l'affaire Cahuzac, tous les ministres qui arrivent en poste font l'objet d'une vérification fiscale. C'est ce qui est arrivé au garde des Sceaux lorsqu'il a pris ses fonctions il y a un an. À partir de là, il y a deux versions. Selon Mediapart, c'est bien la Direction générale des finances publiques en charge de ces contrôles qui a découvert ce que l'entourage du ministre appelle un oubli. L'autre version, c'est celle des proches d'Éric Dupond-Moretti qui pointe une erreur de son ancien comptable, erreur repérée par la nouvelle personne en charge de ses finances. Une fois prévenu, le garde des Sceaux a rectifié le tir et a, je cite, spontanément payé les 180 000 euros manquants. Toujours selon l'entourage du ministre, l'administration fiscale a reconnu sa bonne foi et lui a accordé le bénéfice du droit à l'erreur. De son côté, pas de confirmation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en charge de ce dossier. Elle nous a précisé ne pas communiquer sur les procédures en cours.
Justin Morin du service Police-Justice d'Europe 1.
Les harceleurs de Mila, condamnés à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis, ils étaient jugés pour avoir harcelé, donc, mais aussi menacé de mort la jeune fille sur les réseaux sociaux. « Je ne veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes », a réagi Mila. On attend ce soir le verdict dans le procès 3DEC. La cour délibère actuellement. La perpétuité a été requise à l'encontre du Berkaoui-Saint avec une période de sûreté de 22 ans et 3 ans de prison requis contre Lydie 3DEC.
C'est un événement qui risque de déstabiliser davantage encore l'un des pays les plus pauvres du monde. Le président haïtien a été assassiné la nuit dernière.
Jovenel Moïse a été tué chez lui par un commando, Mathieu Bock.
Oui, d'après le Premier ministre par intérim Claude Joseph, qui a annoncé la nouvelle ce matin, un commando armé composé de plusieurs hommes parlant en anglais et en espagnol s'est introduit dans la villa privée du président, située dans une impasse sur les hauteurs de Port-au-Prince en pleine nuit, et l'a exécuté par balle. Joseph Moïse, 53 ans, est mort sur place et sa femme blessée a été transportée à l'hôpital où elle est décédée un peu plus tard. Ce matin, les Haïtiens se sont donc réveillés abasourdis par cet assassinat. C'est ce que raconte Franz Duval, rédacteur en chef au journal Le Nouvelliste.
C'est le calme, c'est la stupeur, c'est la peur, c'est l'incertitude. Tout le monde est resté à la maison, il n'y a pas de trafic. Les bureaux sont fermés, les commerces ne sont pas ouverts, il n'y a rien du tout. Et c'est vraiment l'attentisme et l'inquiétude. C'est la stupeur pour la façon dont cela s'est produit et ce qui s'est passé, parce que le président tue et c'est du jamais vu ici.
Cet assassinat intervient dans une situation politique très complexe dans ce pays ravagé par les guerres entre gangs. Un nouveau Premier ministre, le 7e en 5 ans, devait prendre ses fonctions aujourd'hui et il devait être approuvé par le Parlement. Or, le mandat des députés a expiré il y a plus d'un an. Le président gouvernait depuis par décret. On ne sait donc pas à l'heure qu'il est qui dirige véritablement le pays, même si le Premier ministre par intérim semble vouloir garder la main pour le moment, puisqu'il vient de décréter l'état de siège dans tout le pays.
Merci Mathieu Bock. Réaction cet après-midi de la France. Paris dénonce un lâche assassinat.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Antoine Griezmann, lâché par l'un de ses sponsors, c'est la suite de la vidéo polémique au Japon.
Et puis le Tour de France et une petite surprise, c'est le Belge Wout van Aert qui s'impose après la double ascension du Mont Ventoux.
Ne bougez pas, on revient.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
18h09, la suite du journal d'Isabelle Millet sur Europe 1. Et cette affaire dont on vous parlait en début de semaine, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, accusés de racisme anti-asiatique.
Oui, dans une vidéo qui remonte à 2019, dans laquelle on entend les deux stars du Barça se moquer du personnel japonais et de leur hôtel. Eh bien, Clément Le Saffre, les premières sanctions commencent à tomber contre Griezmann, en tout cas, qui vient d'être lâché par l'un de ses sponsors, l'éditeur japonais de jeux vidéo Konami.
Oui, un contrat signé pourtant il y a seulement quelques semaines. L'attaquant des Bleus devait être l'ambassadeur du jeu de foot PES 2022, hein, c'est le concurrent de FIFA, et également du jeu de cartes Yu-Gi-Oh!, une passion d'enfance d'Antoine Griezmann. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il expliquait avoir lui-même contacté Konami.
C'est moi qui ai écrit sur Twitter un message à Konami pour leur dire que j'adorais Yu-Gi-Oh! Si je pouvais avoir des cartes. Donc ils m'ont envoyé un gros carton de cartes. Et ensuite j'ai dit, et pourquoi pas, est-ce que je peux aller voir les locaux au Japon? Je suis invité et après on m'a proposé aussi de pourquoi pas faire une carte.
Une carte spéciale à son effigie, donc, qui ne verra jamais le jour. À la suite de cette vidéo, dans laquelle, je le rappelle, on voit Antoine Griezmann rire aux blagues de son comparse Ousmane Dembélé sur la langue japonaise, notamment, eh bien, Konami a fait savoir que le contrat du joueur était purement et simplement annulé. Toutes les vidéos officielles du partenariat ont même été supprimées de YouTube dans la journée. Les deux joueurs ont présenté leurs excuses, mais la vidéo met aussi leur club dans l'embarras. Konami a demandé au FC Barcelone quelles actions il comptait entreprendre dans le traitement de cette affaire. Et ce n'est pas la seule entreprise à réagir. Hier, le géant japonais du commerce en ligne Rakuten, sponsor maillot du Barça, a dénoncé, je cite, les remarques discriminatoires de Griezmann et Dembélé. Rakuten qui demande lui aussi des explications au club espagnol.
De nouveaux rebondissements en vue, donc vous suivrez ça. Merci Clément Le Saffre. La justice doit parfois trancher sur des sujets existentiels. Celui-ci, par exemple, le pchit émis par la canette d'une boisson gazeuse que l'on dégoupille, vous voyez ce que je veux dire. Ce pchit constitue-t-il une marque sonore qui pourrait être à ce titre soumise à la propriété intellectuelle? Eh bien non, a dit le tribunal européen, qui avait été saisi par l'un des leaders mondiaux du marché des canettes métalliques. Gros sujet, hein.
Le sport, à présent avec le Tour de France, une sacrée étape aujourd'hui avec deux ascensions du Mont Ventoux pour le prix d'une.
Europe 1 en direct du Tour de France.
11e étape, donc effectivement, sur les pentes du Mont Ventoux que les coureurs ont gravi deux fois sur deux versants. On vous retrouve en direct, Marguerite Lefebvre, avec une victoire surprise pour le Belge Wout Van Aert.
Oui, incroyable numéro du Belge Wout Van Aert, que l'on connaissait puncher, sprinter et que l'on découvre donc grimpeur aujourd'hui. Il s'est offert cet après-midi sa 4e victoire d'étape sur le Tour de France. Victoire de prestige après, vous l'avez dit, deux ascensions du Mont Ventoux, double ration. Le champion de Belgique a pris l'échappée du jour et s'est envolé tout seul dans la deuxième montée du Mont Chauve, la plus compliquée. Il ne s'est jamais retourné, ni dans l'ascension, ni dans la descente vertigineuse vers Malocène. Il s'impose donc dans cette 11e étape. Derrière lui, on retiendra que le maillot jaune a été attaqué. Tadej Pogacar a failli céder du terrain, mais il est revenu dans le final. Il est toujours leader devant Rigoberto Urán, qui chipe la deuxième place à Ben O'Connor. Côté français, on notera à l'arrivée la deuxième place de Kenny Elissonde et puis la belle résistance de Guillaume Martin qui conserve ce soir sa 9e place au classement général.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre sur la route du Tour.
C'était le Point Étape. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy.
Le foot à présent, Isabelle. Qui va rejoindre l'Italie ce soir en finale de l'Euro de foot, le Danemark ou l'Angleterre?
Les deux équipes s'affrontent ce soir à partir de 21h. Les Anglais qui seront chez eux, hein, à Wembley, dans leur jardin, dans leur temple, avec 60 000 spectateurs. Mais il en faudrait plus pour impressionner les Danois, invités surprise de cet Euro, Jean-François Pérez.
Oui, c'est une équipe dont le parcours a failli s'arrêter dès le premier match. Danemark-Finlande, le meneur de jeu danois, Christian Eriksen, s'écroule sur la pelouse. Attaque cardiaque, on craint le pire, mais la rapidité et l'efficacité des secours vont faire des miracles. Le joueur de Tottenham est ranimé et transporté à l'hôpital de Copenhague, où il va se remettre petit à petit. Ses coéquipiers, d'abord traumatisés, vont trouver des forces insoupçonnées pour poursuivre l'aventure et lui donner une tournure héroïque. Outsider de la compétition, le Danemark franchit 1-1 les obstacles jusqu'à se retrouver ce soir à Wembley en demi-finale de l'Euro face à une Angleterre sûre de son coup et de son tube « It's coming home » sur le thème du retour du foot sur sa terre natale. Les Danois s'en amusent à l'image de leur gardien Kasper Schmeichel en dialogue avec un journaliste.
Vous connaissez certainement la phrase « It's coming home ». Qu'est-ce que cela signifierait pour vous d'empêcher que la coupe rentre à la maison?
A-t-elle déjà été à la maison? Je ne sais pas. Vous l'avez déjà gagné?
En 1966, la coupe était à la maison.
Eh bien, c'était la Coupe du Monde.
Contrairement aux Anglais, dont le seul grand trophée remonte à 55 ans, les Danois, eux, ont déjà remporté l'Euro, déjà à la surprise générale en 1992, et ils feront tout pour aller au bout. Christian Eriksen et ses sauveteurs ont en effet été invités par l'UEFA à Londres pour la finale dimanche, et ils ont tous très envie de boucler leur épopée sous les yeux de leurs joueurs vedettes et désormais symbole national.
Et ça tombe bien, on suivra ça en direct, en intégralité sur Europe 1 avec vous, Jean-François Pérez, avec Cyril de la Monnerie, grande soirée foot dès 20h, toujours sous la houlette de Lionel Rousseau, bien sûr.
Merci beaucoup Isabelle Millet, on vous retrouve bien sûr à 18h30 pour l'essentiel de l'info et à 19h pour un nouveau journal. La météo demain, Marlène Duré, ça sera un peu comme aujourd'hui, hésitant.
Oui, on sera souvent sous la menace d'une averse à un moment ou à un autre de la journée. Alors la zone la plus instable, on va la retrouver de l'Alsace aux régions alpines avec des averses sous un ciel assez gris au lever du jour. Et cette zone instable, le matin, elle va déborder un petit peu sur la Bourgogne. Et puis en journée, plutôt vers les Alpes de Haute-Provence, l'extrême est de la Drôme et une partie des Alpes-Maritimes. Ces averses tourneront parfois à l'orage près du relief. Alors le long des plages atlantiques, on va se réveiller aussi sous de nombreuses averses, y compris dans les terres de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, eh bien, elles vont devenir plus rares en journée, sauf peut-être dans le Limousin. À confirmer, le beau temps, on ira le chercher du côté du Roussillon. des plaines de Provence, la vallée du Rhône, du côté des plages méditerranéennes aussi, où Mistral et Tramontane feront leur retour d'ailleurs. La Corse, belle journée, petite averse sur le relief. Allez, on va terminer avec quelques températures. Vous savez qu'on était en dessous des moyennes de saison cet après-midi. Ça va remonter un petit peu, oui. Alors, 17 degrés au Touquet, ça c'est pour la minimale. Il fera 21 à Nantes et Clermont-Ferrand, 21 également au Cap-Ferré, chez nos amis girondins. 22 à Nancy et Grenoble, 23 à Paris, 24 à Toulouse, 27 en Avignon, 29 à La Ciotat et une moyenne de 30 degrés en Corse.
Merci Marlène, on vous retrouve bien sûr à 18h30 pour un nouveau point météo.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le résultat d'une grande consultation citoyenne sur les discriminations. Le contenu de ce rapport dévoilé par la ministre déléguée en charge du dossier, Elisabeth Moreno. Elle sera avec moi dans un instant, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h19 sur Europe 1, c'était un engagement pris par le président de la République Emmanuel Macron le 4 décembre dernier. Lancer une grande consultation citoyenne sur les discriminations. Le rapport final va être rendu public. Bonsoir Elisabeth Moreno.
Bonsoir Thierry Dagiral, bonsoir
vous
à toutes et à tous.
Vous êtes la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Vous avez en charge ce dossier. Du 8 avril au 31 mai, donc plus de 5000 contributions, 45 000 votes, 37 ateliers participatifs, des questions sur 8 thématiques, l'emploi, le logement, la sécurité, l'accès aux services. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport ?
Plusieurs choses. D'abord, les 135 000 participants sur une période de 2 mois. Ensuite, une très très forte mobilisation de la jeunesse. On se pose beaucoup de questions sur la volonté de la jeunesse de participer à la vie du pays, à la citoyenneté. Et quand on a une grande majorité de jeunes entre 18 et 29 ans qui participent à cette consultation, on peut se dire que ces sujets les intéressent au plus haut point.
Ouais.
Ensuite, vous savez, le président de la République a voulu que cette consultation ait lieu parce que jamais dans notre pays, nous n'avions pris la peine d'aller demander à tous les Français, à toutes les Françaises, à toutes les personnes qui habitent dans notre pays, qu'est-ce que vous pensez des dispositifs qui existent pour lutter contre la discrimination? Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions mettre en œuvre de plus que ce qui n'existe déjà? Et est-ce que vous connaissez des bonnes pratiques qui peuvent améliorer la vie de nos concitoyens?
Alors justement, qu'est-ce qu'ils vous répondent à ces questions-là?
Eh bien, ce qu'ils nous répondent, c'est qu'il y a effectivement, depuis une quinzaine d'années, un ressenti d'une augmentation des discriminations. Et il faut reconnaître que ces derniers mois, on a eu plusieurs exemples de personnes qui étaient discriminées. On a vu des sujets remonter comme l'accès à l'emploi, on a vu des sujets comme l'accès au logement, l'accès aux services publics, l'accès à la santé qui sont de plus en plus présents, la sécurité, tout le monde en parle. Il y a énormément de dispositifs qui existent aujourd'hui qui ne sont pas connus.
Ouais.
Et là, l'objet de cette consultation, c'était aussi de faire connaître à toutes les personnes les dispositifs qui existent. Et aujourd'hui, on a des retours très intéressants.
Justement, les lois existent, c'est ce qu'ils disent. Pas besoin d'en créer des nouvelles, mais par contre, il faut aménager ces lois.
Absolument. La France est l'un des pays d'Europe qui a le plus large arsenal législatif pour lutter contre les discriminations. Le problème, c'est que la plupart des personnes ne connaissent pas ces lois et quand bien même ils les connaissent, ils ne savent pas comment les activer. Je vous donne un exemple.
Ouais.
La plupart des saisies ou des dépôts de plainte en justice, ce sont des dépôts de plainte au pénal. Au pénal, c'est difficile parfois de pouvoir prouver quand vous êtes une femme enceinte et que vous êtes discriminée dans votre emploi parce que vous êtes enceinte, c'est difficile de le prouver. Si vous déposez une plainte au civil, la plainte est la charge de la preuve est beaucoup plus allégée et c'est beaucoup plus facile d'aboutir. Donc, je pense que au-delà de ce ressenti des discriminations, il faut que les gens connaissent leurs droits, il faut qu'ils puissent les activer et il faut casser ce sentiment d'impunité de la justice ou de l'impunité de ces agressions parce que c'est pas bon pour notre démocratie.
Pardonnez-moi, Madame la Ministre, vous dites « il faut Yaka ». Concrètement, on fait quoi ?
Non, je ne dis pas « il faut Yaka » parce que nous agissons. Au-delà de dire « il faut Yaka »,
dans quel sens ?
Au mois de février 2021, nous avons lancé la première plateforme de lutte contre les discriminations qui a été confiée à une institution totalement indépendante qui est le Défenseur des droits, qui donne accès au 3928 ou sur Internet, sur antidiscrimination.fr, à toutes les personnes qui se sentent discriminés, parce que parfois vous vous sentez discriminé, mais ça n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas accès à un emploi que vous êtes discriminé. C'est peut-être aussi parce qu'il y a un meilleur candidat.
Vous pensez vraiment qu'un numéro de téléphone va changer les choses ?
Je pense
vraiment. J'ai l'impression que maintenant qu'on crée un numéro de téléphone dès qu'il y a un problème sur la table, mais
On ne règle pas la racine, les problèmes.
Pardon, lorsque vous vous sentez discriminé, ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui vous écoute, qui vous explique ce qu'est la loi, qui vous aide à trouver des solutions, qui vous met en relation avec un avocat lorsque c'est nécessaire, qui vous met en relation avec une association lorsque c'est nécessaire. On n'a pas besoin d'un numéro vert, ce n'est pas le numéro vert qui est important. Ce qui est important, c'est l'oreille attentive qu'on vous prête pour que vous ne vous sentiez pas seul avec cette discrimination. Donc voilà, cette plateforme, c'est la première fois qu'une plateforme telle que celle-ci existe. Oui. Ensuite, le lancement de cette consultation est la deuxième action concrète que nous avons lancée. Et maintenant que nous avons tous ces dispositifs, 5000 propositions nous ont été remontées, plus de 5000 propositions. Nous allons maintenant les étudier. Je vais travailler avec Jean-Michel Blanquer, avec Olivier Véran,
climat,
avec Emmanuel Vargon.
5000 propositions pour pas grand-chose finalement en bout de course.
Et pourquoi vous dites que ça n'est pas grand-chose? Vous n'avez pas encore vu le résultat, que déjà vous partez du principe que ça ne donnera pas grand-chose.
Entre la demande citoyenne, le débat citoyen et la réalité, parfois, eh bien...
Mais vous ne pouvez pas dire ça, puisque, un, cette consultation n'avait jamais eu lieu. Deux, nous avons déjà commencé à mettre des actions en place. Trois, nous sommes en train de travailler avec la DILCRA sur un plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Quatre, le Premier ministre va certainement prendre connaissance de ce rapport et nous accompagner pour mettre en place des dispositifs, si tant est que ceux qui existent ne sont pas suffisants. Donc non, je ne peux pas vous laisser dire que rien ne va se passer.
Elisabeth Moreno, question politique. La réforme des retraites, serpent de mer de ce quinquennat, revient sur la table. Un point qui vous concerne, bien sûr, les femmes perçoivent en moyenne près de 38% de pension en moins par rapport aux hommes. C'est ce que dit la direction de la recherche, des études et des statistiques. S'il y a une réforme d'ici la fin du quinquennat, elle ne sera qu'un un allongement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Est-ce qu'on peut dire que les femmes seront donc les plus pénalisées finalement?
Du début de leur vie jusqu'à la fin, les femmes sont pénalisées. C'est aussi simple. Les violences sexistes et sexuelles se font à tous les âges. Mmh. On a vu les drames de l'inceste qui ont été dénoncés il y a quelque temps. Et je salue la loi qu'Adrien Taquet et le garde des Sceaux ont fait voter pour protéger les mineurs et faire en sorte que jamais on ne parle de consentement pour un mineur qui est victime d'inceste.
Parfait. C'est terrible. Ma question concerne les retraites, madame.
Alors, sur les retraites, je voudrais vous dire qu'on ne peut pas dire qu'il faut protéger nos jeunes, faire en sorte que ils aient un avenir plus brillant que celui qui est né aujourd'hui, sans penser à rallonger l'âge de la retraite. Mais sur la question des femmes, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas tolérer non plus que les femmes dans notre pays, alors même qu'elles travaillent, qu'elles contribuent à l'économie de notre pays, qu'elles perçoivent moins de pensions de retraite que les hommes.
Et donc
moi, je me réjouis que cette réforme soit en route et je me réjouis que les femmes y trouvent leur compte.
Parfait. Pas plus.
Pas plus.
Dernière question. Le variant Delta menace l'été. On le sait, hein, c'est ce que répète le gouvernement, l'exécutif, c'est la vaccination. Les doses sont là, le vaccin est disponible, gratuit. Pourquoi ne pas inciter plus fortement les Français à se faire vacciner?
Parce que moi, j'ai toujours cru dans le bon sens des Français, parce que nous avons demandé beaucoup de sacrifices aux Français et je veux les remercier de les avoir faits, parce que jusqu'ici, nous avons protégé nos seniors, que je suis... triste de voir que nous devons envisager de vacciner des enfants parce que les adultes ne veulent pas prendre leurs responsabilités. La meilleure manière de lutter contre le Delta, la meilleure manière de lutter contre ce virus...
Pourquoi vous ne rendez pas alors ce vaccin obligatoire?
Parce que je pense que nous avons envie de faire confiance à l'intelligence des Français.
Pourquoi vous hésitez?
Est-ce que ma réponse vous semble hésitante? Je n'hésite pas.
Mais on voit bien que ça ne marche pas. La réalité des faits est là, les chiffres sont là.
Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, si définitivement les personnes refusent de se vacciner et qu'il s'agit de protéger la totalité de nos concitoyens dans notre pays, y compris les enfants, eh bien, peut-être qu'il faudra envisager effectivement de le rendre obligatoire.
Mais s'il y a urgence, visiblement, il y a urgence pour l'exécutif, pourquoi dans ces cas-là ne
je
pas
laisserai,
obliger
Je laisserai les personnes en charge de ce sujet y répondre.
La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno. Merci à vous.
Merci
madame.
Merci de votre invitation.
Europe 1, Thierry Dagiral. Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et à 18h30, l'essentiel de l'info avec vous, Isabelle Millet.
Le Conseil de défense ce matin à l'Élysée pour évoquer la situation préoccupante sur le front de l'épidémie, les contaminations qui repartent à la hausse, la prédominance du variant Delta, il représente 40% désormais des contaminations. La situation inquiétante en particulier en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en région PACA, en Bretagne. La question de la vaccination obligatoire pour les soignants est plus que jamais posée, des soignants dont les représentants ont été reçus cet après-midi par le ministre de la Santé. Depuis aujourd'hui, c'est la fin de la gratuité des tests de dépistage pour les touristes de l'Union européenne. Ils devront désormais payer 29€ pour réaliser un antigénique et 49€ pour un PCR. Le verdict attendu d'un instant à l'autre au procès 3DEC, la perpétuité a été requise à l'encontre d'Hubert Caouissin. Dans l'affaire Mila, 11 jeunes gens condamnés à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis pour avoir participé à son cyberharcèlement et avoir pour certains proféré des menaces de mort contre la jeune fille sur les réseaux sociaux. Le président haïtien assassiné la nuit dernière chez lui par un commando. Paris dénonce un lâche assassinat. La 11e étape du Tour de France au Mont Ventoux, remporté par le Belge Wout van Aert. Pogacar conserve le maillot jaune et puis la deuxième demi-finale de l'Euro. Ce soir, le Danemark affronte l'Angleterre à Wembley. Le vainqueur affrontera l'Italie. Grande soirée foot, évidemment, sur Europe 1 dès 20h.
Merci Isabelle Millet. Prochain journal complet avec vous à 19h. Et on fait un point météo avec vous, Marlène Duré, avec encore demain pas mal d'averses.
Oui, mais en ce moment déjà, je peux vous dire qu'il y a une belle ligne d'averses sur un axe Aquitaine-Limousin-Centre. Et on en attend encore dès le matin, le long de l'Atlantique déjà. Et puis aussi sur une partie de la Franche-Comté d'Alsace, de la région Rhône-Alpes, avant de s'étendre l'après-midi sur une partie de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les averses tourneront à l'orage. Ils seront parfois forts sur le relief. Le temps qui va tourner à l'averse également plus largement sur un quart nord-est, jusqu'au bassin parisien et les Hauts-de-France. Sur le reste du pays, des éclaircies et un ciel plutôt bien dégagé autour de la Grande Bleue avec du Mistral et de la Tramontane. Au plus chaud de la journée, on prévoit 17 à 20 degrés le long de la Manche, 21 à 24 en général, jusqu'à 25, 27 en Roussillon et 28 à 31 près de la Méditerranée.
Oh,
et après,
ça fait rêver.
Après vérification, les températures remonteront en fait vendredi et surtout ce week-end avec une moyenne de 24 au nord dimanche et 30 degrés au sud.
Merci Marlène, à tout à l'heure 19h pour un nouveau point complet. À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et on ouvre le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés en studio Guillaume Tabar, rédacteur en chef du Figaro. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Et bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Et bien sûr avec vous, 39-21, si vous voulez prendre part à nos débats, eh bien vous êtes les bienvenus. Manœuvre. Contre-manœuvre chez les Républicains. L'état-major de la droite était réuni en bureau politique hier soir pour se mettre d'accord sur le calendrier du processus de départage des candidats pour 2022. Un congrès se tiendra en septembre pour permettre aux militants de se prononcer sur le mode de désignation du candidat républicain. Avec un seul objectif, le rassemblement. Aurélie Herbemont, le rassemblement, c'est pas gagné pour l'instant. Hein.
C'est jamais gagné le rassemblement à droite, surtout que là, vous avez quand même une situation qui est très particulière, puisque vous avez Xavier Bertrand, qui n'est plus membre de LR et qui fait déjà cavalier seul en répétant et redisant et réaffirmant encore hier soir sur TF1 qu'il est candidat à la présidentielle. Coûte que coûte. Et qu'évidemment, le rassemblement en tant qu'affaire, c'est mieux si c'est derrière lui, bien sûr. Sauf qu'à droite, vous avez d'autres candidats potentiels qui, eux, ne sont pas déclarés. Mais on pense à des Valérie Pécresse, ouais. Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau ou encore Michel Barnier qui eux aussi se disent qu'ils aimeraient bien être le représentant de la droite pour 2022. Sauf que là où c'est compliqué, c'est que vous avez Xavier Bertrand qui dit « venez à moi » et les autres qui disent « mais pourquoi on te laisserait passer en fait ?» Les autres présidents de région disent « mais nous aussi on a été très bien élus, pourquoi est-ce que parce que tu es parti premier, ce serait toi forcément le chef ?» Donc ça laisse présager des mois un petit peu compliqués à droite, de bras de fer, de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ouais. » si vous me passez l'expression. Ça va être assez compliqué, sachant que le rêve ultime de Christian Jacob, c'est qu'on fasse même pas de primaire, voilà. Que tout ce monde, ce petit monde se mette d'accord dans une salle en disant « Eh bien, c'est toi le candidat ». On peut supposer que ça va pas être aussi simple de les voir tous se mettre dans une pièce et décider de dire « C'est toi qui y vas et nous te soutenons tous avec entrain ».
Guillaume Tabar, il faut rappeler que selon un sondage Ipsos, il est à 18-20% dans les sondages pour l'instant. C'est bien, mais c'est trop peu.
Bah, c'est à la fois, pour l'instant en tout cas, trop lointain d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen pour que tout le monde dise « bah oui, lui, il peut gagner ». Mais c'est en même temps suffisamment devant Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez pour qu'il puisse dire « voyez, c'est quand même moi qui suis en tête ». Il faut quand même voir si tout ça, c'est assez frappant de voir que finalement la mesure prise et en tout cas invoquée par tout le monde à droite pour dire quel est le bon candidat, ce sont les sondages dont on vient de vérifier et heureusement pour la droite, qu'il pouvait se tromper parfois dans de grandes largeurs. C'est amusant de voir les Républicains qui se sont réjouis il y a 15 jours que les sondages soient plantés, il n'y a pas d'autre mot, et qui aujourd'hui vont invoquer ces mêmes sondages pour dire « voyez, c'est nous ou c'est moi qu'il faut désigner ». Le problème, et Aurélie l'a très bien dit, c'est que s'ils étaient capables de se mettre tous dans une pièce, supposons même qu'ils aient cette bonne volonté pour le faire,
de s'entendre,
bon, il n'y a personne qui s'impose de manière évidente, écrasante. Il n'y a plus aujourd'hui ni un Sarkozy, ni un Chirac.
C'est ça, il n'y a pas de candidat.
Pour imposer sa superbe aux autres.
Et la différence, c'est qu'effectivement, Xavier Bertrand a de l'avance, mais en même temps, c'est le seul qui a déclaré officiellement. Mmh. Donc, heureusement, j'ai envie de vous dire qu'il a de l'avance. Mmh. Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, qui ne sont pas très loin d'ailleurs, ils sont à 3, 4, 5 points de Xavier Bertrand. C'est pas non plus très très loin et eux ne sont pas candidats. Ça peut changer les choses si jamais ils disent qu'ils sont candidats. D'ailleurs, dans une enquête de popularité qui est sortie hier, Laurent Wauquiez prend beaucoup de points. Ouais. Xavier Bertrand perd, donc Laurent Wauquiez se dit pourquoi ce serait pas moi après tout moi aussi je peux me lancer, c'est très compliqué.
Je voudrais au 39-21 qu'on écoute Grégory. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
C'est intéressant parce que vous nous appelez de Tourcoing, donc votre région est présidée par Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, peut-il plier le match selon vous?
Plier le match pour ce qui est d'être le candidat de la droite.
Ouais. Donc,
probablement, peut-être, encore que, qui peut dire ce qui se passera d'ici
Vous êtes électeur de droite,
vous? Octobre. Non, je suis plutôt électeur de centre-gauche, mais je peux être électeur de centre-droite. D'ailleurs, j'ai voté pour Xavier Bertrand en 2015. Et j'ai à nouveau
au premier tour aussi.
Au premier tour des régionales, effectivement, oui, mais pas au deuxième.
D'accord. Votre regard donc sur Xavier Bertrand, il est parti trop tôt. Pour l'instant, c'est trop juste. Pour l'instant, il peut incarner et regrouper et rassembler les Républicains.
Alors, il ne peut si on ne voit pas l'avènement de ce que je dirais la droite la plus bête du monde. Pour reprendre une expression bien connue, il serait temps effectivement que tous se mettent dans une pièce et se disent « Allez, on y va pour gagner. » Et on prend le meilleur d'entre nous. Maintenant, ça va se décider donc peut-être au niveau des sondages. Il faudrait peut-être aussi voir ce que chacun propose. Parce qu'au-delà des personnalités donc, de Xavier Bertrand, de Pécresse, de Wauquiez et d'autres, quelles sont les différences entre eux? Quelles sont les différences sur les mesures concrètes qu'ils comptent proposer, sur leur vision économique, leur vision sociétale. Quelles sont les différences entre eux? C'est ça aussi qui est intéressant de savoir.
Merci, merci à vous Grégory de nous avoir contacté au 39-21. Il a raison Grégory, c'est vrai Aurélie Herbemont. Finalement, est-ce que les idées, d'abord quelles sont les idées de la droite? Ça c'est un plus large débat, on en reparlera d'ailleurs dans les prochains jours, sans doute demain. Mais est-ce que Xavier Bertrand, Pécresse, Wauquiez ont un point commun, un socle d'idées communes?
Ah oui, quand même, ils ont un socle d'idées communes. Après, c'est vrai qu'il y a des nuances entre eux. Et c'est pour ça que ceux qui disent qu'il faut une primaire, c'est justement pour trancher aussi la question de la ligne politique. Parce qu'on sait que Laurent Wauquiez, c'est plus à droite, pendant que Xavier Bertrand va être plus sur le côté social. Et c'est vrai que si vous faites qu'avec les sondages, qu'il n'y a pas de débat entre les candidats, mais ça va être chacun dans son coin qui va essayer de faire sa propre promotion, mais il n'y aura pas de confrontation des idées. D'ailleurs, c'est ce qu'à droite, ils ne veulent surtout pas. Le mot confrontation, dites-vous bien que quand même hier soir, ils ont acté qu'il y aurait peut-être une primaire s'ils ne se mettaient pas d'accord. Ça ne s'appelle pas une primaire, ça s'appelle un processus de rassemblement.
Allez, 18h38, vous restez avec nous dans un instant, avec vous deux et avec les auditeurs. On va parler des hésitations du gouvernement sur la vaccination obligatoire. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
La suite du débat des grandes voix avec Aurélie Herbemont d'Europe 1, Guillaume Tabar du Figaro. On va parler maintenant des hésitations du gouvernement sur la vaccination obligatoire. La reprise épidémique inquiète, en cause bien sûr le variant Delta. Le risque d'une quatrième vague rapide est là, c'est ce qu'a résumé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à la mi-journée. Madame, Monsieur, la question de l'obligation vaccinale est sur la table pour les soignants. Est-ce que finalement il ne faut pas l'élargir à toute la population, Guillaume Tabar?
La question est clairement sur la table. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'hésitation de la part du gouvernement parce que le constat, il est fait. Il y a une quatrième vague.
Pourquoi on attend alors?
Parce qu'il faut formaliser la décision, non pas savoir laquelle il faut prendre, mais laquelle est la plus efficace. Une fois encore, l'objectif, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre de gens possible soient vaccinés avant qu'on se prenne en pleine figure cette quatrième vague. Bon, s'il suffisait de prononcer le mot « obligation » pour que ça ait un effet automatique, très bien, pourquoi pas. Mais il faut tenir compte des difficultés techniques, matérielles et aussi psychologiques.
Ouais.
Il se peut que le mot lui-même d'obligation est un effet, vous savez, avec l'esprit de contradiction que certains peuvent avoir.
C'est très politique, c'est ce que vous dites. C'est, il ne faut pas, à la veille des grandes vacances, inquiéter encore des Français fragilisés.
Oui, mais c'est avant tout psychologique. Je veux dire que, on voit bien, le débat, c'est est-ce qu'on peut arriver à persuader ceux qui ne sont pas encore vaccinés de le faire. Voilà. Et est-ce que parfois, on l'a vu d'ailleurs, nous, on l'a vu par rapport aux
masques.
Mais
vous, Guillaume, pensez qu'il faut rendre obligatoire? On a vu dans le JDD ce week-end, écoutez, moi, je le MEDEF, la CFDT, dire
personnellement,
finalement les salariés...
je ne suis ni expert, ni scientifique, ni sanitaire, de quoi que ce soit. Je pense qu'il faut éviter l'obligation formelle, mais qu'il faut faire en sorte qu'elle soit inévitable. Pour le dire clairement, je pense que si pour l'ensemble des activités, qu'elles soient bien sûr participation à des concerts, voire à des activités commerciales pour faire ses courses, pour participer... Bon, on dit aux gens, bah, très bien, vous pouvez rentrer dans un magasin, mais si vous avez votre passe sanitaire, ça reviendrait de facto à rendre le vaccin obligatoire sans le faire. Parce qu'après tout, après, quelqu'un peut dire, mais moi, j'en veux pas. Oui. Pourquoi pas? Mais il faut dire, chacun, bien sûr, est libre, mais à condition d'assumer les conséquences de son choix. On ne veut pas être vacciné, très bien, mais à ce moment-là, on n'a pas accès aux mêmes réalités, aux mêmes activités que ceux qui acceptent de l'être.
Ouais, Aurélie Rebemont.
Là où c'est très compliqué, c'est que depuis le tout début de la campagne vaccinale, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aura pas d'obligation, chacun sera responsable et se fera vacciner s'il le souhaite. Sauf que là, on voit bien qu'on arrive à un moment très compliqué où pour l'instant, il y a un peu plus de 50% des Français qui ont eu une première dose, 36% qui ont les deux doses. Oui. C'est un peu juste pour l'immunité collective. On voit que les gens ne se précipitent plus dans les centres de vaccination. Et puis, il y a alors je n'ose pas l'appeler encore le mur de la quatrième vague, mais on nous dit que la quatrième vague pourra arriver dès fin juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. Donc, de toute façon, même les gens vaccinés aujourd'hui, ça ne sert à rien pour éviter le mur de fin juillet, techniquement. Et donc, il n'y avait pas d'obligation, ça le gouvernement l'a répété. Effectivement, le seul levier... Alors, pour les soignants, a priori, je pense qu'on va aller vers la vaccination obligatoire. Mais pour la population générale, le levier, ce serait plutôt effectivement de restreindre les activités en augmentant l'utilisation du pass sanitaire, qui en France, contrairement à d'autres pays, on n'en a pas besoin. En gros, aujourd'hui, on en a besoin pour aller dans un festival. Ouais. Vous reconnaîtrez qu'on ne va pas tous les jours dans un festival.
On sent que l'opinion publique, elle est en train d'évoluer. Regardez le sondage de cet après-midi, pardonnez-moi Aurélie. 61% des Français sont favorables à des mesures plus contraignantes pour les non-vaccinés. Sondage Elab. 61% des Français, selon Elab, se disent favorables à la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population. Aurélie, ça a l'air quand même de bouger si le président regarde les sondages.
Et pourquoi ça bouge, Thierry? Ce qui est intéressant, c'est qu'imaginez que la situation devienne compliquée d'un point de vue sanitaire, qu'on soit obligé de revivre des mesures de restriction, type couvre-feu, voire confinement. Ouais. Imaginez la réaction des gens qui se sont fait vacciner et qui se retrouvent à devoir être à nouveau privés de liberté, parce que mine de rien, c'est ça. Pour des gens qui refusent de se faire vacciner, ça va être très compliqué. Les gens vont se regarder en chien de faïence en disant « mais moi, je ne veux pas être enfermé à cause de toi qui ne veux pas te faire vacciner et qui fait preuve d'une forme d'égoïsme. » C'est désolé de le dire comme ça, mais il y a un peu de ça. Ça peut être très, très compliqué entre les Français, entre eux, si jamais on arrive à des restrictions parce qu'on n'a pas une couverture vaccinale suffisamment forte.
39-21, je voudrais qu'on écoute, pardonnez-moi, je vous donne la parole juste après Guillaume. Je voudrais qu'on écoute nos auditeurs, c'est important. Jean-Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Lille, mais tout le Nord est là ce soir. Et vous êtes soignant, c'est ça qui est intéressant.
Soignant, oui, c'est ça. Je suis kiné au CHU de Lille.
D'accord, vous êtes vacciné?
Ouais, oui, j'ai eu la chance.
Deuxième dose
Oui, la deuxième dose, je l'ai eu le 26 janvier. Donc, vous voyez, je suis, oui. J'ai fait partie des premiers vaccinés au CHU de Lille. Donc, voilà.
Est-ce qu'il faut aller plus loin? Qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à ces hésitations de l'exécutif?
Moi, ce que je dis, c'est que la peur de la quatrième vague, on a peur de quoi? On a peur que les lits de réanimation et les lits d'hospitalisation se remplissent de nouveau et que ça prenne la place, on prenne la place de patients qui ont besoin de ces lits, d'accord? Imaginez quelqu'un qui a un accident de la route, qui a besoin d'un lit de réanimation, qui n'en a plus parce que certaines personnes ne sont pas fait vacciner. C'est surtout ça le problème. C'est pas que la quatrième vague, il faut avoir peur des lits de réanimation, encore une fois, saturés. Là, on a de la chance, on est à 20%. Mais c'est ça qu'il faut avoir peur. Donc, s'il vous plaît, vaccinez-vous pour que les lits de réanimation ne soient pas de nouveau remplis à cause du Covid et que d'autres personnes qui en ont besoin, des personnes qui, des accidentés de la route, des AVC, des choses comme ça, puissent bénéficier de ces lits.
Bien
voilà.
Merci. Merci à vous, Jean-Philippe de Lille, Guillaume.
Oui, je disais qu'il fallait quand même être prudent sur l'argument utilisé. J'entends à l'instant ce que veut dire monsieur, dit attention, il faut absolument être vacciné parce que sinon, vous allez voir, on ne pourra pas accueillir tout le monde dans les lits d'hôpitaux. il a sans doute raison, mais on a quand même entendu lors des premières vagues, des premiers confinements, attention, il faut maintenir le confinement parce que sinon on ne pourra pas accueillir tout le monde dans les hôpitaux. Il y a eu cette pression, et de mon point de vue quand même abusive, genre, enfin, exactement, à laquelle Emmanuel Macron a résisté. Souvenez-vous, lorsqu'il a dit eh ben, on ne reconfinera pas, ou lorsqu'il a dit le déconfinement c'est à telle date, le 11 mai, quand c'était, qu'il a maintenu ce calendrier-là. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu de la part qui disait mais attention, on sait, c'est inconscient à l'égard de la capacité hospitalière. La vérité, c'est qu'il a eu aussi, et c'est que ça n'est pas le confinement qui a permis de bloquer tout ça. Bon, c'est-à-dire qu'on a pu conserver des libertés tout en n'allant pas au-delà de la capacité hospitalière. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci? Je ne sais pas, mais attention à l'argument un peu de peur et d'autorité dans ce cas-là. Quoi.
Allez. Je rappelle quand même qu'il y a un prochain conseil de défense, donc lundi prochain. Guillaume, vous avez eu quand? Vous avez quelle année de date? Le bac. C'était quand le bac pour vous?
Ah, le bac, ouais. En 1980.
Ça valait quelque chose à l'époque.
Écoutez.
Est-ce que ça vaut encore quelque chose? On en parle dans un instant, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h49, on pense à tous ceux qui sont en train de passer les oraux de rattrapage là en ce moment. Plus de 9 candidats du bac sur 10 sont déjà diplômés. Aurélie Herbemont, est-ce que le bac vaut encore aujourd'hui quelque chose?
C'est un passage initiatique.
Ça reste symbolique
d'avoir son bac. On devient un peu adulte après le bac.
Mais dans le temps, c'était le bac, le permis de conduire, on était homme ou femme.
Oui, mais par exemple, moi, j'ai eu le bac en 2001, ça ne me rajeunit pas, mais déjà à l'époque, c'était nécessaire, mais pas suffisant, le bac. Vous aviez des concours à passer si vous vouliez aller dans certaines écoles, certaines classes prépa, et puis si vous aviez votre bac même haut la main, ça ne garantissait pas que votre première année de fac, vous alliez la réussir. Donc c'était déjà, c'est le passage obligé pour passer dans l'âge adulte d'avoir son bac, mais après tout commence, j'ai envie de vous dire.
Mais Guillaume Tabar, par exemple, regardez, il n'y a pas eu d'épreuve écrite quasiment pas cette année, les oraux ont été de simples formalités. Est-ce que finalement c'est une année blanche, une année pour rien?
Sauf que la suite ne s'annonce pas mieux, si j'ose dire. J'ai un peu peur qu'on soit pris un peu par le mécanisme du rasoir à deux lames qui vienne raboter totalement le bac. Le premier, c'est effectivement, à partir du moment où on passe d'un taux de réussite qui n'est pas total à quasiment 100%, à quelques unités près, ça montre que ça n'est plus un critère de sélection, donc même de fierté pour celui qui a son bac. Et ensuite, Aurélie parlait de dimension initiatique. La dimension initiatique du bac, c'était quoi aussi? C'était de se coltiner à un examen, de plancher.
D'avoir peur,
on était 3 heures, 4 heures dans une salle d'examen,
sur sa copie de philo.
Avec un sujet et un bic et un stylo.
Et l'attente, rappelez-vous, devant les listes, on était là.
Voilà,
comme,
et comme toujours, d'abord, je pense que, comme en tout, le rite est quelque chose d'important. C'est vrai pour le vote, c'est un autre sujet, mais c'est vrai pour le vote, c'est vrai aussi pour un examen. Il y a cette dimension un peu rituelle. Bon, on sort de ses habitudes, on se confronte à une réalité un petit peu inconnue. Et puis, on se confronte à soi-même. Je dirais que moi, j'ai mauvais souvenir de mes 4 heures de philo où je ne savais pas quoi dire. On est obligé un peu de se gratter le cerveau. Et ça, si on supprime toute épreuve écrite, j'ai peur que l'on perde aussi cette dimension.
Et Guillaume, vous parliez de sélection. Et c'est vrai que les statistiques ministérielles indiquent qu'en études supérieures, moins d'un étudiant sur 3 décroche la licence en 3 ans. Finalement, c'est après que se fait la sélection.
C'est après que ça commence. C'est ce que je disais tout à l'heure, déjà à mon époque, donc pas si lointaine, mais pas si récente non plus.
Que devrais-je dire?
On était nombreux à avoir le bac, mais ce qui comptait déjà, c'était d'avoir des mentions, en fait. C'était le bac plus, en fait, qui comptait et qui conditionnait plutôt la suite de vos études. Juste le bac, déjà à mon époque, c'était pas du tout la garantie que la suite de vos études allait bien se passer. Pas du tout. Et le tri, entre guillemets, le mot est très très laid, mais se faisait après la première année dans le supérieur.
Mais ouais, en effet, il y a Parcoursup qui fait le tri avant.
Voilà, maintenant, l'idée, c'est d'un peu changer pour que justement, ce ne soit pas des cohortes d'étudiants qui, au bout d'un an, échouent leur première année.
D'ailleurs, il y a un curseur qui est très révélateur, c'est que je crois que le taux de réussite au bac d'il y a 20 ou 30 ans correspond aujourd'hui au taux de mention très bien de ceux qui ont leur bac. Ouais.
On a tous en tête le bac de 1968, toute la génération qui l'a obtenu cette année-là. On leur a dit finalement qu'on leur avait donné. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que ça va laisser des traces sur les bacheliers de 2021?
Écoutez, espérons que pour eux, non, parce que...
Sur un CV, par exemple, finalement, c'est une année de perdu, une année blanche.
Écoutez, ils n'auront pas aidé. C'est vrai que suivre des cours en distance et de manière partielle, ce n'est pas la même chose que de suivre une année complète, que passer un bac où on n'a pas toutes les épreuves, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, les jeunes qui ont eu leur bac cette année ou l'année dernière ne sont ni responsables ni coupables de cette situation-là.
Mais non, il ne faudrait pas justement qu'ils soient stigmatisés, qu'on voit sur leur CV, mon Dieu, bac 2021, pas du tout. Ils ont été plutôt victimes d'ailleurs de la situation, et je pense les premiers, alors pas les seuls à souffrir de cette année un peu compliquée, mais parmi les premiers à souffrir, de ne pas avoir de cours, de ne pas pouvoir sortir avec leurs amis, parce que c'est aussi un peu l'âge où on commence à être un peu plus libre, à avoir une vie plus à l'extérieur de la maison. Donc j'espère qu'ils ne seront pas stigmatisés, mais c'est vrai que pour eux maintenant, mais comme pour tous les bacheliers à chaque fois, tout commence à partir du mois de septembre.
Aurélie Herbemont et Guillaume Tabar, ce soir vos grandes voix, merci à vous deux. Et dans Europe Soir, été, un peu de musique pour vous accompagner avec le tube de l'été, Clara Luciani.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse.
Le reste, Clara Luciani.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Restez avec nous dans quelques secondes sur Europe 1, votre journal de 19h avec un jugement qui était attendu, celui du procès Mila. A tout de suite.